Alors, en deuxième heure, notre sujet, ben évidemment, là, faut en parler, là. Parce qu'on parle de prolonger la fermeture des écoles. Est-ce que nos enfants, nos jeunes risquent pas d'en payer le prix? Poser la question, c'est un peu y répondre, mais ça ouvre aussi le volet à beaucoup de sous-questions à l'intérieur de ça. Donc, je vais avoir besoin que vous me téléphoniez puis que vous acceptez de jaser avec moi un petit peu puis avec mes invités au 514-790-9850, 1-866-790-9850. Est-ce que prolonger la fermeture des écoles, c'est pas nos jeunes qui risquent d'en payer le gros prix? Mon premier invité tout de suite est M. Égide Royer, qui est psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour M. Royer.
Bonjour Dan.
Comment allez-vous? Je pose la question à tout le monde
bien.
Parce que
ça va
oui,
bien,
mais c'est important.
Le plan complet va bien, mais écoutez, on a des situations... Situation inédite et je vis un peu évidemment au même rythme que l'ensemble des Québécois par rapport à cette situation-là.
Oui, c'est anxiogène. Mais le truc, je crois, c'est de ne pas, quand on se donne à soi-même le but de ne plus avoir d'anxiété, on ne sera jamais satisfait parce que ça n'existe pas. Et donc, on se trouve à réaugmenter notre anxiété par-dessus parce qu'on se demande une commande à laquelle on ne peut pas répondre. Ça prend de l'anxiété un minimum dans la vie, juste pour savoir au moins si on se tasse, si un char nous rentre dedans. Donc, c'est peut-être de juste rationaliser un peu notre anxiété, tout le monde. Et puis, je crois que c'est comme ça que tout le monde va pouvoir être le plus efficace pour eux-mêmes et pour d'autres. Mais là, pour nos jeunes... je rappelle qu'ils n'ont toujours pas eu de bulletin de cette année. Le taux d'échec va aller en augmentant. Est-ce que vous prévoyez littéralement une pandémie de décrochage scolaire?
On peut probablement déjà affirmer. C'est une estimation en fonction des quelques données que j'ai pu avoir de l'étranger et des quelques données qu'on a du Québec. On peut très bien affirmer que j'ai au moins un jeune sur trois là, qui a des retards scolaires importants. Et c'est le genre de situation qu'on peut pas trancher au couteau. On peut parler de la santé mentale des jeunes, on peut parler de l'ennui des jeunes, etc. Moi, pour le moment, je prends l'angle, même si je suis psychologue, je prends l'angle, entre autres, de jeunes qui se sentent mal parce qu'ils sont en situation là, d'échec scolaire. Et tu parlais d'anxiété tout à l'heure. Quand on est capable de se trouver quelques poignées, quelques leviers qu'on est capable de bouger, que ce soit dans sa vie personnelle, ou que ce soit par rapport à la situation des jeunes en difficulté d'apprentissage, être capable d'agir un peu sur la situation, même si ce n'est pas parfait, c'est quelque chose qui donne une certaine forme de sens, un sens de contrôle par rapport à ce qui arrive et qui est sûrement bon pour la santé mentale. Et présentement, ce qui concerne les jeunes en difficulté, il ne faut pas uniquement constater qu'il y a des retards, mais il va falloir directement intervenir. Il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles.
Comme quoi?
Une des premières actions qui est possible, c'est que, écoutez, si on se retrouve encore en enseignement à distance, là, je pense au primaire puis au secondaire, prendre l'exemple du primaire, la semaine prochaine, et je ne sais pas combien de temps ça peut durer, là, la première des choses, c'est que, écoutez, les hôpitaux délestent présentement, il y a des priorités dans les hôpitaux au niveau du suivi par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé. Évidemment, on a une priorité au COVID là, par rapport aux cas qui sont carrément en urgence. Mais c'est un peu la même chose au milieu scolaire. Là, ça ne servira à rien de surcharger les parents si on est enseignement à distance la semaine prochaine, de surcharger les parents et d'envoyer des contenus ou des choses à faire comme si on était en classe.
Mais il y a déjà bien des parents qui ne sont plus capables de suivre maintenant, à ce moment-là.
Des parents qui ne sont pas capables de suivre. Écoutez, ça fait combien d'années que vous travaillez directement avec des jeunes, avec des adultes qui ont des problèmes d'adaptation? Regardez, je vais vous donner un exemple. Bon an, mal an, j'ai un 20% des Québécois qui sont analphabètes, là, même pas fonctionnels, là, analphabètes. Certaines de ces personnes-là ont des enfants. Et prenez cette situation-là à titre d'exemple. Vous avez à suivre vos jeunes de deuxième et de quatrième année par Zoom à raison de tant d'heures semaines et du matériel scolaire. On n'est pas tous égaux. Que ce soit en temps, en disponibilité ou en possibilité ou en capacité, poursuivre à distance dans un cas d'enseignement là, virtuel, là, que pour être capable de suivre nos jeunes pour qu'ils réussissent. C'est sûr qu'il faut tenir compte de ça. Parce que présentement, l'écart entre les jeunes qui ont plus de difficultés et les jeunes qui vont bien, il va en augmentant. J'ai des parents qui ont des sous, qui ont carrément engagé des services de tutorat par rapport à leurs jeunes, etc., etc. Mais d'un autre côté, si je continue mon analogie avec les hôpitaux, là, c'est le temps d'aller vraiment au plus urgent au niveau des matières, des contenus, et d'aller au plus urgent dans qui a besoin d'aide et comment est-ce qu'on peut leur en donner sans surcharger les parents et sans surcharger les jeunes non plus.
Parce qu'on parlait d'échecs scolaires. Il faudrait peut-être, dans le cas d'une pandémie, puis je vous le dis parce qu'on est obligé d'improviser un peu nos solutions. Il n'y a personne ici qui a vécu la grippe espagnole. Mm-hmm. Et donc, on ne connaît pas ça, une pandémie. Donc, on est obligé d'apprendre à mesure. Est-ce que ça ne vaudrait peut-être pas la peine d'accepter un retard global plutôt que de séparer les enfants qui se démerdent mieux des enfants qui se démerdent moins bien? Parce qu'il y a trop de facteurs qui contribuent à ne pas les aider. Puis j'ai très, très peur que des enfants avec des besoins particuliers, par exemple les TDAH ou autisme ou tout ça, déjà là qu'on a à peu près le temps de s'en occuper, puis je dis à peu près pour être gentil, parce que souvent c'est plutôt moins que plus, moi j'ai peur qu'on carrément on les perde. Moi, j'aurais envie de baisser le résultat qu'on attend pour cette raison-là, garder les enfants ensemble, mais aussi parce que réussir quelque chose, c'est quelque chose qui fait bien pour l'estime de soi. Tu réussis quelque chose, tu es quelqu'un. Et ça, c'est pour les enfants aussi. C'est pas juste les grosses carrières. On n'a rien à foutre. C'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est de rater ton année, te faire pointer du doigt. Je suis bon à rien, je suis pas bon à l'école. Puis l'école, c'est ton environnement beaucoup quand t'es jeune. C'est ton principal but que tu dois réussir. C'est comme ça qu'on a construit nos sociétés avec l'enseignement. Sur l'estime de soi des enfants qui sont déjà déprimés et anxieux, leur dire t'es pas bon à l'école, je trouve que ça pose un maudit gros problème.
Oui, ça pose un problème. Puis regardez, quand je disais d'aller à l'essentiel, d'aller au plus urgent, là, que le jeune ait un déficit d'attention, que le jeune ait des retards scolaires, des choses comme ça, on sait déjà que d'être en retard en lecture vers la fin de la troisième année, là, ça a un impact sur l'ensemble de ce qui va se passer pour les années suivantes au niveau de la fréquentation scolaire. Bon, aller au plus urgent, c'est la possibilité de garder le goût de lire, d'avoir des activités intéressantes de lecture et de développer ses habiletés de lecteur, son muscle de lecteur, si vous aimez mieux, durant cette période de pandémie-là. Quand je dis d'aller au plus urgent, c'est sensiblement ça. Écoutez, mes jeunes continueraient à apprendre à lire et continueraient à lire avec le plaisir de lire, ça serait déjà un gros morceau.
Oui, parce qu'un gros morceau de la pédagogie, c'est commencer par montrer que c'est le fun. Parce que sans ça, ça va être une corvée à chaque fois. Il faut d'abord enseigner que c'est le fun, puis après ça, ben là, ça se développe.
Et ça, cette question-là de lecture, quand un jeune a des handicaps ou des difficultés ou autre, ça devient fondamental. L'autre élément, c'est que, mon Dieu, quand... d'avoir un adulte qui nous accompagne dans une situation pénible, vous l'avez vécu dans un projet que vous avez vous-même, là. D'avoir, je dirais pas un mentor, pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais quelqu'un qui nous accompagne dans l'adversité.
Oui.
Et quelque chose qui a nécessaire. Ça, c'est au niveau de la résilience et du support, c'est important. Donc, moi.
Mais de dire aux enfants qu'ils sont importants pour nous, premièrement, puis ça se dit bien avec des mots, je t'aime, c'est très beau, c'est fantastique, je suis pour, mais de pouvoir être là, c'est fantastique, mais c'est pas tous les parents qui peuvent être là. Il y a le télétravail, il faut gagner la vie, c'est une situation économique épouvantable pour la majorité du monde au Québec.
Mais comprenez-vous que j'ai un paquet d'étudiants au collégial présentement qui s'ennuient, là, qui la trouvent longue aussi, puis j'ai un paquet de futurs enseignants dans les universités qui la trouvent longue aussi, la pandémie.
Oui, est-ce qu'ils pourraient pas participer, eux?
Il faudrait qu'ils participent. Regardez mon grand gars de première secondaire, là, qui est en échec en maths puis en français, là, d'avoir un Samuel qui s'en va en enseignement secondaire, qui est en deuxième année, qui fait son bac à l'université, puis qui devient son coach, son accompagnateur, son mentor, nommez-les, donnez-y le mot que vous voulez, là. Ben, regarde mon grand, moi, je vais t'accompagner, on va être ensemble, je vais te donner un coup de pouce durant cette pandémie-là, mais qui est capable de supporter autant au niveau affectif qu'au niveau des connaissances.
Bien
qui est
sûr,
capable
mais ça va
plus
ensemble.
Urgent. Pardon?
Ça va ensemble. Quand un enfant aime son prof ou son coach, il va vouloir que ça se passe bien, il est intéressé, ça le valorise parce qu'il y a quelqu'un que lui aime, qui le trouve intéressant et l'aime en retour. Il y a quelque chose qui se passe bien dans ce temps-là. Mais sauf que c'est des services qui sont quand même pas simples à organiser. Si on pense cas par cas, ça va bien, mais dans l'ensemble, est-ce que vous trouvez pas que notre ministre Roberge, notre ministre de l'Éducation, devrait des fois faire partie du point de presse de notre gouvernement quand on parle de ces choses-là? Peut-être pas à tous les points de presse, mais de temps en temps, il devrait venir avec des solutions comme ça, puis dire « voici, on fait ça ».
Je répète déjà depuis quelques décennies que l'éducation doit être aussi importante que la santé. Et c'est les deux plus gros ministères de toute manière, mais en termes de... On le voit, on le réalise beaucoup d'ailleurs dans le contexte de la pandémie, parce que c'est pas rien que la situation que l'école s'occupe des enfants le jour, c'est plus que ça. Donc, c'est évident que quant à moi, ce serait sans surcharger la tribune, là, Ça ne peut être qu'une question, ne serait-ce qu'à cause de la situation de la santé mentale, puis de l'estime de soi, puis des retards importants que développent des jeunes. Écoutez, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé, ça devrait être les deux piliers. Et c'est pour ça que présentement, ce qu'on observe, et parce que moi, je participe sur un certain nombre de comités du ministre, là, avec les présidents des autres professionnels, là. Mm-hmm. Là, il y a une réunion encore vers le milieu de l'après-midi aujourd'hui là-dessus, sur la question du suivi des élèves en difficulté. Et on sent que l'éducation est toujours en train de négocier pouce par pouce ou mètre par mètre ce qu'elle peut garder comme service, toujours avec la santé. Et ce qui est fascinant, c'est que présentement, les médecins n'ont pas l'air à trop s'entendre non plus. J'ai le regroupement des pédiatres qui insistent absolument pour que les écoles demeurent ouvertes. Et d'un autre côté, j'ai la santé publique qui souvent pousse en disant non, il y a peut-être un facteur de propagation, etc.
Mais c'est certain que c'est parce qu'on se base sur les. Excusez-moi, je suis désolé, mais on se base sur les unités familiales pour éviter la contamination. Mais si on envoie nos enfants tous ensemble, on vient de mélanger 30 unités familiales dans la journée. Alors, là, c'est évident que les deux points de vue se valent et qu'on est obligé de faire un choix.
Les deux points de vue médicaux, parce que prenez la position du regroupement des pédiatres au Québec, là, c'est sans nuance. Là. Tous les élèves doivent aller à l'école. Donc, moi, j'en suis moi aussi. Mais néanmoins, il va falloir dès maintenant avoir des types de mesures. On parlait d'accompagnement tout à l'heure, de mentors, etc. On parlait d'aller directement aux plus urgents. Et l'autre élément, il va falloir, est-ce qu'on est en mesure d'offrir certaines formes de camps d'été pédagogiques, quelque chose d'agréable, là, où je suis capable de retrouver mes amis, là, puis je suis capable de faire des sciences naturelles, toutes sortes de choses intéressantes, mais qui me permettent de combler, en tout cas, les retards importants que j'ai pu avoir dans le cadre de l'année. Puis quand je dis retard, c'est pas une question nécessairement de notes, là, c'est je finis ma deuxième année et je lis ou je comprends ce que je lis seulement comme un jeune de fin de première année. Ça, c'est un retard. Et ça, c'est quelque chose qui va m'handicaper. Ou j'ai échoué en maths, en français puis en anglais en première secondaire. Là, je m'en vais en deuxième secondaire automatiquement. Là. Ça a un impact.
Je vais formuler une hypothèse. Et vous me direz, je suis dans le champ déjà que. Puis là, je ne reproche pas la CAQ ou les libéraux, quoi que ce soit. Mm-hmm. En particulier, ça fait 60 ans qu'on coupe dans la santé, dans l'éducation, dans la DPJ, dans toutes ces choses-là. On coupe à chaque élection, à chaque budget. On coupe. Jusqu'à temps que là, en ce moment, les professeurs sont complètement à bout, nonobstant la pandémie. À un moment donné, ça prend quand même des sous pour affecter des gens à faire des travaux, parce que c'est beaucoup demandé aux profs. Les profs sont pas seulement des machines à demander à donner de la matière. Ils ont des émotions. Et puis, à un moment donné, il y a un syndrome qui s'installe, qui s'appelle, on le sait, c'est l'angoisse de compassion. Ils voient drette devant leur face. Parce que nous autres, quand on pense à une école, on pense à regarder le prof. Mais le prof, lui, il voit les élèves devant lui. Il y a des enfants qui se désorganisent, qui vont très, très, très mal. Et il n'a pas le temps de les aider.
Et c'est pour ça que maintenant, vous enseignez, vous, là, en deuxième année primaire, là, bon, et votre école comme telle a reçu une offre de la faculté d'éducation de telle université en disant on a une quinzaine de nos étudiants de deuxième, troisième année qui sont prêts à accompagner des élèves en difficulté. Moi, directeur d'école, je me retourne puis je te demande, Dan, dans ta classe de deuxième année, y a-tu des jeunes là, qui, selon toi, auraient besoin, bénéficieraient d'avoir une forme de suivi ou d'accompagnement de futurs enseignants? Ils seraient prêts à jouer un rôle de mentor ou de tuteur? Ben, tu me dis, oui, j'ai un tel. Mais là, je viens de rendre service aux profs là, du primaire. Mais je viens de rendre service à ces jeunes-là. Il faut que ce soit quelque chose d'aussi souple que ça en termes de mesures d'aide et de mesures d'accompagnement. Parce que, écoute, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Là.
Oui, puis d'abord, il ne faut pas tenter de résoudre tous les problèmes de santé plus la pandémie. À un moment donné, on s'en met trop sur les épaules, on n'y arrivera pas. Donc, je comprends qu'il faut être méthodique. Mais bon, j'estime toujours que j'aimerais beaucoup voir le ministre Roberge dans les points de presse. Ça ferait du bien à tout le monde.
Non, une recommandation, c'est pertinent. Oui. C'est pertinent. Ça me permettrait de. Écoutez, c'est le deuxième ministre qui consulte beaucoup, beaucoup, beaucoup et à qui qu'on peut rejoindre assez facilement. Là. Le ministre Proulx était de la même nature, de même style. Donc, au moins, on a deux ministres de suite là, qui prennent ça à cœur et qui ont mis l'éducation là, au devant là, des priorités là, au Québec. Mais comme vous dites, ça aurait valeur de symbole vraiment de l'avoir directement à la majorité ou tout au moins, ou surtout qu'on parle qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les écoles, de l'avoir directement au point de presse.
Bien, on lui passera le message, puis il sera peut-être là prochain point de presse. C'est des affaires que le premier ministre décide. Alors, je vais vous remercier, M. Royer. Merci infiniment. Ça éclaire vraiment nos lanternes. Puis, on est toujours en train de chercher des solutions et puis c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, M. Royer. Passez une belle journée. C'était Égide Royer, qui est psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Au retour, on va parler avec le docteur Céline Lamy après la pause. Je rappelle notre question, c'est prolonger la fermeture des écoles, comme là c'est fortement envisagé, on se doute bien que c'est ce que le gouvernement va annoncer demain. Est-ce que c'est pas nos jeunes qui risquent d'en payer le prix au bout? Je sais qu'il faut, on est toujours en opposition un peu avec la santé mentale et la santé physique, alors que ça devrait aller ensemble, mais c'est certain que le confinement n'aide pas la santé mentale, et nos enfants qui vont être beaucoup moins à l'école, je me demande jusqu'à quel point... ça peut être même catastrophique. On va en parler. Je reçois le docteur Céline Lamy. Elle est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme et auteur du livre « Il pleut à la maison, parler de votre santé mentale avec vos enfants ». Ben, bonjour, docteur Lamy.
Bonjour, Dan.
Alors, avant de parler de notre santé mentale avec nos enfants, ce qui est très, très important, je vais vous reposer la question que... Parce qu'on dit bonjour, puis salut, comment ça va bien, puis c'est un automatisme. Je vous demande, pour de vrai, comment ça va?
Ça va pas trop mal. J'attends avec impatience de voir dans les jours à venir l'impact de l'annonce. Je l'ai déjà eu, je dirais, en direct avec mes enfants ce matin. Mon fils de 11 ans m'a dit « Maman, j'aurais pas eu quasiment 2 ans d'école ». Voilà l'impression qu'il a ce matin en se levant. J'ai manqué 2 ans d'école. Donc, je pense qu'on en est là pour nos enfants. L'impact va être... on a un retour déjà sur l'impact du premier confinement. Et je pense qu'effectivement, ce deuxième confinement, j'ose le dire, on entre vraiment, je pense, à pieds joints dans une nouvelle épidémie qui va pas se résoudre avec un vaccin ou une médication miracle, mais c'est vraiment une vague de difficultés psychologiques, voire psychiatriques, des troubles de l'adaptation chez nos jeunes. Puis cette vague-là va nous suivre au long cours. On n'oublie pas que nos ados vont être les futurs adultes qui vont définir le monde de demain. Et on a vraiment, on le voit...
Et qui vont garder ça avec eux.
Exactement. On a vraiment dans les consultations des enfants qui sont aux prises avec des difficultés désormais d'attachement relationnel, des difficultés au niveau scolaire, de gestion de leurs émotions. C'est quand même des enfants qui ont eu à gérer des deuils répétés en plusieurs mois. On n'a jamais vu ça jusqu'alors. Donc, on voit les conséquences déjà maintenant.
Je vais me permettre de poser une question qui est franchement clairement reliée. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, là, il y a une proportion d'à peu près 20 % d'analphabètes fonctionnels. Donc, on parle ici de gens qui ne peuvent pas aider leurs enfants à pendant leurs travaux, leur classe sur Zoom. J'en fais partie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un secondaire 4, puis j'ai tout appris par la suite. Je sais écrire, je sais lire, je sais calculer. Mais j'ai appris autrement. J'ai essayé d'aider mon fils quand il était jeune à m'aider pour un devoir de mathématiques, mais j'ai dit, ben, c'est à toi de ta tête, le train part à ta heure, ça veut dire que, etc. Il a fonctionné par sa logique, il a trouvé la réponse, puis il a eu 0, parce que c'était pas la bonne méthode. Alors, on est peut-être, c'est peut-être pas juste les parents qui ne savent pas lire et écrire, c'est peut-être beaucoup de parents qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu cette éducation-là il y a 30, 40 ans, et qui n'arrivent pas à aider leurs enfants comme ça. Et puis d'autant plus que Zoom, moi, il me semble qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochent beaucoup plus facilement que s'ils sont à l'école.
Au niveau de l'attention et de la concentration, c'est manifeste. On est dans sa chambre, on voit les amis niaiser un petit peu plus. J'étais derrière mon fils il y a quelques temps, puis je constate effectivement que l'attention et la concentration sont complètement flottantes. Puis oui, j'ai de plus en plus de parents dans mon bureau en larmes qui me disent « mais je suis pas capable de l'aider, des fois je suis pas là, j'ai 3 ados à gérer, plus le bébé, il y a le secondaire 2, le secondaire 1, on est face à quelque chose d'impossible à gérer pour les parents, même au-delà de parents qui ont des difficultés personnelles, je pense qu'on est tous aux prises avec comment on va faire.
Absolument. Ben justement, on va les consulter. Je reçois un premier parent. Gênez-vous pas pour répondre, hein. C'est pour moi l'expert, là. Allez-y. On a Julie au téléphone. Bonjour, Julie.
Bonjour, Dan. Ça va bien?
Moi, ça va bien. Toi?
Oui, merci. Compte tenu des circonstances, ça va. Moi, je suis à Brownsburg-Chatham, en banlieue de la Chute.
Oui.
C'est pas tellement loin. C'est pas l'Amazonie. C'est pas l'Afrique du Sud non plus. Mais imaginez-vous que moi, ce qui m'inquiète, c'est que mon fils est en secondaire 5. Mm-hmm. Il s'en va au cégep l'année prochaine à Laval en cuisine. Et puis, avec le nouveau confinement puis les cours en ligne, il n'est pas capable de suivre parce que ça me coûte 274 $ par mois pour avoir du 200 gigs par mois, donc même pas Internet illimité, à du 7 mégabits seconde en moyenne. Fait que ça décroche constamment, c'est pas constant, fait qu'il peut pas suivre les cours en ligne.
Il n'arrive pas à avoir une attention soutenue. Parce que faut quand même le dire, là, dans nos grands centres, on a de l'Internet solide à cause du câble, mais qu'en dehors, en région, je sais, j'habite dans la Naudière, c'est un peu de l'Internet au charbon puis à pédale, là.
Moi, je dis au castor, mais oui, c'est de la
même famille. Oui, c'est la même famille, c'est-à-dire que c'est dur de faire quelque chose de soutenu. Moi, je peux faire du télétravail, mais soutenu, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Puis si nos enfants, ça leur prend une attention, nos jeunes, ça leur prend une attention soutenue, puis s'ils peuvent pas l'avoir parce que le réseau saute à tout bout de champ, ils peuvent échouer avec ça.
Oui, puis j'ajouterais que dans le cas de mon fils, il n'y a pas de difficulté d'apprentissage. Sauf que c'est un kinesthésique, c'est un visuel. Et l'auditif, pour lui, là, c'est le parent pauvre. Fait que il n'y a pas beaucoup de concentration quand c'est de l'auditif. Même à la maison, on lui donne une consigne, il faut le toucher avant parce que pour lui, là, il n'y a pas d'attention auditive. Fait qu'imaginez-vous, en Zoom, quand ça décroche, quand tu essaies de suivre une conversation, puis ou encore plus une matière, que ce soit mathématiques ou autre, c'est problématique. Fait que c'est difficile de j'en ai parlé à l'école. L'école lui a fourni une super tablette Mac, vraiment très, très belle, avec des données Internet illimitées, mais sans prendre en considération que je leur avais dit, il y a beau avoir l'Internet illimité sur la tablette. Dans la forêt, ici à Vanceburg-Chatham, il n'y a pas d'accès au téléphone cellulaire. Mon cellulaire fonctionne pas chez moi. Faut que je sorte au dépanneur pour aller le faire fonctionner. Fait que je trouvais que ça faisait une disparité au niveau de l'éducation. Puis comme Victor est en musique et joue de la trompette, d'habitude il est dans l'OPL, là en plus il manque toute cette portion-là de socialisation avec sa gang de l'orchestre, avec le sentiment d'appartenance. Fait que oui, c'est inquiétant.
Merci beaucoup, Julie. Docteur Lamy, Julie nous parle de sentiment d'appartenance avec sa gang et elle nous parle aussi du fait qu'on a déjà abordé dans l'émission que nos enfants décrochent avec les nouvelles technologies. Moi, ce qui m'inquiète
paradoxal.
Toujours... Oui, ben je sais. Mais c'est parce que là, on se fie beaucoup sur les technologies, mais ça fonctionne pas partout de la même façon. Et ce qui m'inquiète, c'est toujours la même chose. C'est leur... parce que vous parlez de pathologies qu'on va garder pendant des années, même à l'état adulte. Moi, je trouve que le premier ennemi, c'est de détruire l'estime de soi de quelqu'un. Et si quelqu'un est constamment en état d'échec, ben il se prend pour un raté, alors que c'est faux.
C'est exactement ça. Pour revenir sur l'histoire des ordinateurs, ce qui est très paradoxal, c'est que l'ordinateur qui était initialement le lieu d'une activité parfois sympathique pour nos enfants est devenu comme quelque chose parfois d'extrêmement rédhibitoire, voire répulsif. Donc il y a déjà ça qui est compliqué. On demande à nos enfants de faire du télétravail, donc ça c'est très compliqué pour eux. On a quand même vu que le temps d'écran a beaucoup augmenté quand même, et là on n'en parle pas assez, mais la cyberdépendance va devenir un énorme problème. Concernant l'estime de soi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'on a vu flamber surtout chez nos jeunes, ce sont les troubles anxieux et une anxiété très particulière qui est l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, c'est la crainte que l'un de nos parents puisse avoir un problème de santé, puisse mourir. Et on voit des enfants maintenant se désorganiser quand un des parents part travailler. Les enfants ont besoin de réassurance. Puis le fait de partir à l'école également, de se dire, si l'un des parents est à la maison, qu'est-ce qui va se passer en mon absence? Donc on a des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, qui deviennent extrêmement insécures à l'idée de se séparer maintenant de leurs parents. Donc beaucoup plus de difficultés de s'autonomiser, d'aller effectivement vers une autonomisation nécessaire à l'adolescence, des enfants qui régressent au niveau de leur autonomie et de leur estime de soi.
Je comprends, mais ça me permet même de corrigez-moi, je me trompe, j'ai beaucoup de jeunes voyagent en temps normal, oui. aussitôt qu'ils sont en âge de le faire. Et j'ai toujours cru que c'est les enfants qui avaient le plus de problèmes à la maison, qui avaient plus envie de sacrer le camp loin, et c'est complètement l'inverse. Les enfants qui pour qui ça va bien à la maison partent le plus loin parce qu'ils savent qu'ils peuvent revenir quand ils veulent.
Exactement.
Alors que ceux qui savent pas comment ça va se passer au retour, eux autres ont très peur de s'éloigner.
Exactement. On est vraiment dans des dynamiques d'attachement. Quand un enfant a pu définir très tôt un attachement sécure, il est capable d'aller loin en se retournant en se disant « Papa, maman seront là au cas où ». Un enfant qui, dès le départ, a été dans des moments de négligence ou de carence, a un attachement extrêmement insécure, ce qui fait qu'il sait parfois qu'en se retournant, personne ne sera là. Ce qui fait qu'effectivement, la capacité d'aller à l'aventure, comme on dit en pédopsychiatrie, est beaucoup plus difficile chez ces enfants-là.
D'aller à la découverte des autres.
Oui, exact.
Et il y a beaucoup de... Bon, il y a l'abandon pur, que moi je trouve c'est littéralement une agression, mais il y a l'abandon des parents qui sont obligés d'avoir deux jobs pour survivre et ils n'ont pas le choix. C'est un fléau de société, ça aussi. Les gens ne font pas des gros salaires et puis pour pouvoir continuer à survivre et à nourrir leurs enfants, ils doivent travailler comme des fous, mais ça crée le même sentiment d'abandon chez les enfants puis un sentiment de culpabilité épouvantable chez les parents, mais ils y sont forcés.
Exactement, mais il y a ce sentiment d'indisponibilité psychique qui est perçu par l'enfant très très jeune. Puis les parents vivent dans une culpabilité telle que ça attise énormément de colère qui entraîne encore plus d'indisponibilité psychique. Bref, on est dans un cercle extrêmement vicieux. Puis les enfants, sont comme en réaction, ils comprennent. Mais ce qui fait, malheureusement, que c'est des enfants qui deviennent matures très très tôt, puis qui sont confrontés à
trop
des
tôt.
Réalités.
Beaucoup trop tôt.
Oui.
Ils ont pas la force encore pour se tenir debout, pour affronter ces choses-là. Et ils sont obligés. Moi, il n'y a rien que je trouve plus triste que les enfants adultes parce qu'ils ont été forcés. Docteur Lamy, je vais vous garder avec moi. On va prendre d'autres appels. Je sais qu'il y en a une couple qui attend en ligne, mais je trouve très intéressante. On va prendre des appels de retour après la pause. Alors, je rappelle la question de notre deuxième heure. Prolonger la fermeture des écoles, est-ce que c'est pas nos jeunes qui vont en payer le gros prix au bout? Je sais que c'est nécessaire, je le comprends. On essaie juste de faire le pour, le contre, puis de trouver des solutions le plus créatives possible pour essayer d'accompagner ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on s'adapte. Je suis toujours avec le docteur Céline Lamy, qui est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme, et elle va rester avec nous jusqu'à la fin de l'heure. Je viens de lui annoncer. J'espère qu'elle est d'accord.
Parfait.
Merci beaucoup, docteur Lamy. Et on va prendre un appel tout de suite. Roberto. Salut, Roberto.
Oui, bonjour, ça va?
Bonjour, oui. Vous, comment ça va?
Ça va bien.
OK.
Par rapport à la question, écoutez-moi, ma fille maintenant va secondaire 1 dans une école de la commission scolaire de Montréal.
Oui.
Elle a pris un programme enrichi. Malheureusement, elle a fini l'école comme tous les enfants, la primaire, l'école à distance.
Mm-hmm.
J'ai remarqué qu'à l'école, ils ne sont pas donné bien les outils informatiques pour travailler aux 6e année.
Ah, oui.
OK. Et maintenant qu'elle a commencé secondaire 1, c'est la même chose. Il y a des enseignants qui donnent des travaux à faire, mais ils ne sont pas bien montrés les outils informatiques.
Ah, mais c'est peut-être un problème qui se comprend. Vous savez, moi je me sers d'informatique d'abord pour mon studio d'enregistrement, mais je suis pas un spécialiste. J'ai appris juste ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ma job, et ça a été long. Pourquoi? J'ai 63 ans. Mon fils est tombé là-dedans, c'était tellement naturel pour lui, mais on fait pas partie de cette génération-là. Donc, j'imagine qu'il y a des profs qui sont plus âgés. Eux autres, ça doit pas être des champions de l'informatique non plus. Donc, il faudrait peut-être engager des gens spécialisés pour aider les enfants avec ça, pour aider les parents qui sont avec les enfants, et puis à ce moment-là, faire baisser l'anxiété un peu. C'est un petit peu votre propos?
Oui, aussi, mais je pense qu'il faut commencer à bien enseigner les outils et après donner les cours ou donner les devoirs. Tu ne peux pas donner un devoir sans bien montrer l'outil informatique. Et après, mettons, à l'école, à ma fille, un de ses amis est arrivé à l'école en faisant le devoir dans un autre outil, et l'enseignant a dit non, c'est pas bon, je te mets en zéro tout de suite.
C'est évident, mais ce que vous dites tombe tellement sous le sens, pas d'outils, pas de cours, il me semble que c'est clair. Merci beaucoup, Roberto. On va passer à Valérie. Bonjour, Valérie.
Bonjour, Dan, ça va bien?
Ça va bien, toi. Alors, dis-moi, moi, j'entends que tu as 4 enfants?
J'en ai 6, mais j'en ai 4 d'âge scolaire.
Ouch. OK. Fait que c'est de l'action à la maison, là. OK.
Oui, oui. J'en ai deux adultes qu'eux autres sont autonomes, mais mes quatre derniers, eux autres, ils vont à l'école. Il y en a une au primaire, quatrième année. Il y en a une en secondaire 1 en classe adaptée. J'en ai deux en secondaire 4. Ce sont pas des jumeaux. Il y en a un qui avait redoublé dans les années passées. Mm-hmm. Puis moi, ça a eu quand même un effet positif. Dans le sens, au mois de mars, là, quand que tout le, il a fallu qu'on fasse à distance, moi, j'ai exigé aux enfants qu'ils prennent en main vraiment leur étude parce que j'étais à la maison avec eux. À l'époque, là, mon emploi me permettait de pouvoir rester à la maison. Fait que je les ai aidés. Ça a fait que mon secondaire 3, mon secondaire 4 a pu rentrer en secondaire 4 fort en mathématiques, mm-hmm, parce qu'il a été capable de se concentrer. Vraiment. Parce qu'à l'école, il y a souvent de l'intervention que les professeurs sont obligés de faire. Ça, c'est le genre de choses que je pense qu'on oublie de parler dans les tribunes. Les professeurs, eux autres, là, ils sont syndiqués, ils ont quand même des conventions. Il y a des professeurs qui sont pas aptes à présentement pouvoir fonctionner avec les appareils électroniques. Parce qu'ils savent pas eux autres même. Fait que c'est difficile pour un professeur d'enseigner quelque chose à distance, plus de faire la gestion que moi, j'étais présente. Puis encore aujourd'hui, mes enfants sont à l'école, à la maison. Puis moi, je travaille aujourd'hui, mon conjoint est à la maison, mais il y a des professeurs là qu'il faut qu'ils mettent des élèves dehors du cours. Mais ils font ça comment? Ils font ça avec les moyens du bord. Ils ont appris sur de spot que je dis, moi, comment fonctionner avec les tablettes et tout ça. Puis effectivement, comme le monsieur avant disait, c'est pas tous les élèves qui ont accès au matériel électronique. C'est pas tous les élèves qui comprennent comment ça fonctionne.
C'est pas tous les professeurs qui sont compétents en informatique, sont compétents en leur matière, sont compétents dans une classe. C'est ce qu'on leur a demandé, mais on leur a pas demandé de se spécialiser en informatique, sauf ceux qui enseignent l'informatique. Donc, vous rejoignez les propos de Roberto, ça prend nos outils pour pouvoir travailler. Mais moi, je me dis que le fait que vous ayez pu aider vos enfants, ça a sûrement baissé leur anxiété. Plus l'anxiété baisse, plus l'anxiété monte, moins bien on travaille, c'est clair. Et puis là, c'est un espèce de cercle vicieux.
Non, pas nécessairement. Mon plus vieux, lui, il me dit, yeah, maman, c'est le fun, ils nous ont fait passer l'année passée, mais en réalité, on passait pas parce que la matière, on l'a pas reçue. Quand ils sont rentrés en septembre, il y a des professeurs qui, pour eux autres, c'était supposé d'être appris l'année passée. Pour eux autres, dans leur tête, c'était acquis. Mais en réalité, ça ne l'était pas acquis.
Oui, mais Valérie, moi, je trouve ça encore plus grave. C'est-à-dire que si nos jeunes vont pas bien puis qu'ils sont pas compétents pour passer leur année puis qu'on les fait passer quand même, ça va être rendu au moment sur le marché du travail, ils vont avoir un choc, mais méchant, en maudit.
Exactement, puis c'est vrai ça qui se passe présentement. Moi, là, j'en ai un, là, qu'on oublie ça, là. Lui, il a monté, mais il n'aurait pas dû monter. Puis ils l'ont monté pareil. Fait que là, il ne comprend pas la matière, il n'est pas capable de la suivre. Puis il ne peut pas dire on va aller en récup, il n'y en a pas de récup.
Merci beaucoup, Valérie. Ça rejoint, vous répétez parce que mot pour mot, ce que Roberto nous a dit juste avant vous, on comprend très bien. Il y a un problème, là. Qu'il va falloir adresser, c'est qu'avec ces nouvelles technologies-là, il va falloir apprendre à fonctionner avec et l'enseigner à nos enfants. Merci Valérie. On a Patrick. Salut Patrick.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je crois que le mal est déjà fait. Un aspect que je fais partie d'un conseil d'établissement scolaire dans une école, parce qu'on a 610 enfants, dont 120 enfants qui ont des codes scolaires ou qui ont été ciblés par la direction scolaire, qui ont des troubles d'apprentissage. Et l'aspect qu'on n'a pas mentionné encore, que j'entends pas parler, c'est l'aspect du niveau des années de scolarité. Les enfants ont manqué l'année de scolarité 2019-2020, lorsqu'il y a eu la première vague de fermeture des écoles. Donc, toute la matière qui aurait dû être acquise n'a pas été acquise, comme disait votre précédent interlocuteur. Par la suite, tout le fait que l'école est fermée désormais, toute la matière qui aurait dû être acquise au niveau de l'année de scolarité. Donc, on parle aux enfants qui ont des troubles, sans compter les enfants qui n'ont pas de troubles là, d'apprentissage, mais si on rentre dans les enfants...
Qui ont cause des troubles. Parce que là, est-ce que je résume ce que vous dites? Si je comprends ce que vous dites, c'est qu'on a de l'air à tout pelleter par en avant. On a déjà des difficultés avec l'année passée qui sont rendues les difficultés de maintenant, qui se rajoutent aux difficultés de maintenant. Et plus le temps va avancer, plus on va se faire une montagne de difficultés devant nous. Est-ce que c'est ce que je comprends?
Effectivement. Puis au côté de l'école à la maison, mais la matière, les professeurs, ils ont en moyenne une heure, ils prennent une heure par jour pour donner la matière, mais c'est la matière est donnée par le professeur titulaire. Donc, le professeur titulaire du groupe va généralement avoir trois matières qui vont couvrir, mais c'est pas vrai qu'en vidéoconférence avec une trentaine d'élèves, c'est pas vrai que une heure qui est donnée va être vraiment donnée en matière. Il va y avoir beaucoup de rattrapage dans l'enfant de la concentration, elle revient ici, il va y avoir aussi de la discipline qui va être faite. Oui. Donc, la portion matière...
Il y a tous les problèmes que les enfants ont, que le prof peut voir, mais pour lequel il ne peut pas intervenir. Il est sur Zoom. Merci beaucoup, Patrick. Madame Lamy, c'est quelque chose qui... on essaie de trouver des trucs, des solutions pour baisser l'anxiété de nos enfants, mais là, de ce qu'on comprend, c'est que la matière qui a été mal donnée à cause qu'on est dans une parce qu'on est dans une pandémie, on l'a pelletée par en avant. Là, on l'ajoute à la matière de cette année, puis là, on va ajouter ça et à un moment donné, ben là, nos enfants vont complètement se décourager et en se décourageant.
Ils se découragent déjà, ils le disent déjà.
Ils sont déjà dedans.
J'ai des enfants de plus en plus jeunes qui me disent docteur Lamy, j'ai pas le niveau. Puis je repense à mon fils ce matin qui me dit, maman, j'ai perdu 2 ans d'école. Faut pas imaginer que les enfants sont heureux de ça. Ils sentent qu'ils ont pas le niveau. Puis pour certains, comme on a entendu dans les interlocuteurs, on fait passer les enfants, on nie les difficultés, puis on amasse un retard qui va se retrouver à quel niveau? Est-ce que c'est en 2021-2022 quand on retournera à l'école qu'on pourra se rendre compte de ça? Comme a dit Patrick, le mal est déjà fait.
Est-ce que à ce moment-là, il ne faudrait pas envisager, je vais dire un gros mot tout de suite, mais faire couler les enfants? Ce que je veux dire par là, c'est que vu que nos enfants, clairement, n'ont pas les compétences pour passer au prochain niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas adapter, justement, en disant aux enfants, c'est pas parce que vous n'êtes pas bons, c'est parce qu'on est en situation de pandémie, on est obligé de prendre plus de temps. Donc, désolé, vous allez arriver sur le marché du travail un an plus tard que ce que vous aviez prévu, mais on va prendre le temps de vous enseigner la matière. Est-ce que vous pensez que peut-être notre ministre de l'Éducation devrait réfléchir à cette situation-là?
Ce serait sympathique, mais je ne vois pas comment on peut le faire pour l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'on reculerait l'arrivée, entre guillemets, sur le marché des jeunes, des futurs professionnels. Je pense qu'il y a tout un aspect sociétal là qui serait comme remis en cause. C'est sûr que pour l'estime des enfants, ce serait important de dire « Ok, ça n'a rien à voir avec ton niveau, mais comprends que le retard est tel qu'on ne peut pas te faire passer au secondaire 1 alors que tu as perdu 5e, 6e année, par exemple. » Mais je ne sais pas au niveau organisationnel si c'est envisageable. Ça pose question. On est face, et c'est ce qui est le plus difficile pour les enfants en ce moment, à une sorte d'imprévisibilité permanente. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup pour nos jeunes, c'est qu'ils me disent, je ne sais plus sur qui ou sur quoi m'appuyer, sur quel adulte, oui, sur quelle parole. Puis les parents disent, on se sent dépossédé aussi. J'entends beaucoup de parents, là, débrouillards, résilients, puis très créatifs, mais la majorité me dit, je me sens dépossédée de ma parentalité. Toutes les décisions sont prises par une instance qui n'est pas moi, qui est le gouvernement. C'est une politique qui définit,
oui,
finalement l'éducation. Puis quand on doit dire à notre enfant non, ma fille m'a dit, maman, est-ce que je peux aller dormir chez une amie? Ben, voyons donc, c'est pas possible, tu le sais. Ben, t'es donc dans plate, me dit-elle. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout ça? Ben, c'est la décision du gouvernement. C'est pas possible. Comme ça, la loi dit non. Et c'est extrêmement difficile. On se sent complètement dépossédé de notre parentalité classique.
Oui, je comprends. Je vous garde. Il nous reste un petit dernier bloc. Oui. On va prendre encore les appels des auditeurs et puis on va discuter parce qu'il va toujours falloir parler des deux aspects. Il y a l'aspect académique puis il y a l'aspect estime de soi des enfants. Comment ils se développent? Oui. Parce que c'est pas vrai qu'on se développe seulement qu'avec des études. Ça en fait partie, c'est une partie importante, mais le développement d'un enfant est beaucoup plus important et beaucoup plus large que ça. On en parle après la pause. Je suis toujours avec Dr. Céline Lamy et puis on prend vos appels. Dr. Lamy, moi, je vais souvent aux enfants une difficulté. C'est pas juste une déformation parce que c'est un peu ça que je connais. C'est surtout que nos enfants en difficulté représentent quand même les autres, mais plus gros. Céline, Gilles Vigneault disait, chez nous, en Attachouane, on compte jamais de mensonges, mais on gonfle un peu la vérité pour qu'on puisse la voir de loin. Alors, j'avais trouvé ça sympathique, mais c'est un fait que nos enfants en difficulté représente ce que tous les enfants passent au travers, mais en plus gros. Donc, je m'en sers pour illustrer les autres. Il semble que nos enfants en difficulté, c'était déjà dur avant la pandémie. J'ai peur qu'ils restent les grands oubliés de cette pandémie.
c'est vraiment une grande inquiétude, d'autant que ces enfants-là, malheureusement, souvent, sont des enfants aussi très silencieux. C'est ceux qu'on voit pas.
Oui.
C'est ceux qui vont rester parfois au fond de la classe, puis ils font pas de bruit. Puis c'est parfois des enfants dont les parents sont peut-être aussi moins allumés sur les difficultés de leur enfant, donc ils vont moins solliciter les soignants. Ce qui fait que, oui, c'est des enfants les plus en difficulté. C'est ce que j'appelle l'enfance invisible, malheureusement, puis qu'on va pas voir.
Il y a des enfants qui sont très doués pour passer en dessous du radar. Et au contraire,
exactement,
de s'asseoir en arrière, ils vont s'asseoir direct devant le prof, vont avoir un beau sourire, on pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est dans leur réflexe de vie d'essayer de passer inaperçu parce qu'ils pensent qu'ils sont pas normaux et que c'est pas ça du tout le problème. Mais il y en a qui sont doués là-dessus. C'est plus eux qu'on ramasse, par exemple, au refuge plus tard, que ceux qui ont des problèmes évidents parce qu'eux attirent l'attention. Un enfant tannant, ça attire l'attention. C'est ceux qui m'inquiètent, c'est les tranquilles.
C'est ceux qui m'inquiètent le plus. C'est ce que je dis toujours à l'école, c'est celui qu'on ne voit pas. Exactement. Puis c'est devenu des professionnels du poker face, mais oui. C'est aussi des enfants qui sont élevés par des parents parfois qui vont pas bien eux-mêmes, qui ont beaucoup de mal à dire « ça va pas, j'ai besoin d'aide ». Il y a comme tout, c'est ce que j'évoque aussi dans mon livre, c'est parler de sa santé mentale, parler de ses difficultés. C'est pas évident d'être capable de dire « je suis vulnérable, je suis faillible, ça va pas, j'ai besoin d'aide ». C'est des
difficile.
Enfants qui sont aussi souvent parentifiés puis qui prennent soin déjà de leurs parents. Alors, prendre soin de soi en tant qu'enfant, ben, c'est comme...
Mais déjà, être parent de ses parents, c'est beaucoup trop lourd pour un enfant. Mais
exact.
On comprend que dans l'adversité, quand c'est difficile, les enfants s'adaptent de cette façon-là. On peut très, très bien
vraiment.
Comprendre.
Oui.
Mais c'est vraiment... ça donne... Moi, j'ai peur de la génération de ceux qu'on va avoir oubliés parce qu'ils passent en dessous du radar. Et là, vous rejoignez notre sujet de la première heure qui était notre santé mentale à nous, les adultes. Parce que là, on s'aperçoit que, par exemple, on passe ça à nos enfants. Nos enfants, on aimerait bien leur passer ce qu'on veut dans l'éducation qu'on voudrait leur donner. Puis ça marche jamais comme ça. On leur passe ce qu'on a. Ça
exactement.
Peut pas être autrement. Le trois quarts des choses qu'on leur passe, on sait même pas qu'on le fait.
Exact. Vraiment. Puis là, on a vu dans ce qui joue les mois derniers que le degré d'anxiété est directement relié au degré d'anxiété des parents. Il y a vraiment quelque chose de très miroir. Puis, à parents anxieux, enfants anxieux et parents en colère, enfants en colère. J'ai eu un jeune de 7 ans qui m'a évoqué un discours complètement abracadabrant, extrêmement complotiste sur ce qui se passait dans le monde. Et puis, je réalisais comment on projetait sur nos enfants l'idée de la méfiance. Il avait déjà, dans un discours d'un petit garçon de 7 ans, l'idée qu'il devait se méfier de tout, de tout le monde et du monde entier. Donc oui, comment effectivement, en tant que parent, on va projeter et transmettre à nos enfants ces sentiments très archaïques, finalement.
Ce qui rejoint, je crois que ça va très, très bien conclure notre affaire, Dr Lamy. On a tellement parlé du besoin et même du devoir. C'est difficile parce que quand on parle à une personne en détresse, en extrême détresse, même des gens qui peuvent se fantasmer sur du suicide, puis on leur dit, c'est ton devoir de t'aider. Mais attends un peu, mon devoir, moi je suis en train d'y rester, c'est trop dur. Mais justement, c'est que tout ce qui est souffrance non-dit va finir par nous tuer. Alors, il faut que comme adulte, on commence ça. Si on n'est pas capable d'appeler les lignes d'écoute et d'avouer à quel point on est en détresse, il faut au moins avoir un minimum de réseau d'amis parce que non seulement ça nous aide de nous confier nos problèmes, mais ça aide l'ami aussi. Alors, il y a un échange et les enfants qui sont le plus à risque me semblent souvent, je ne veux pas généraliser, mais me semblent souvent faire partie de familles où tout est très fermé.
Exactement. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de honte encore à dire qu'on va mal au niveau de la santé mentale. Il faut déjà commencer par accepter cette vulnérabilité. C'est très difficile. Puis ça parle encore de comment on perçoit, par exemple, quelqu'un déprimé. Oui, on va avoir tendance à lui dire, bouge-toi, va faire du sport, sors-toi de là. C'est une question de volonté. Puis ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui a fait une dépression sait que quoi qu'il se passe, on a comme une inertie interne qui fait qu'on n'est pas capable.
On a 100 000 livres sur les épaules dans ce temps-là. Et le problème,
exact.
C'est que quand on reçoit une émotion forte, négative, on veut se soigner. Mais quand on ne ressent plus rien, on ne veut pas se soigner. Et c'est là qu'on est le plus en danger. Docteur Lamy, merci beaucoup d'avoir passé toute l'heure avec nous comme ça et d'avoir répondu à mes questions puis celles de nos auditeurs. Et puis, j'espère qu'on se reparlera éventuellement. À bientôt.
Avec plaisir.
Merci. Et puis moi, je vous reviens demain. Merci.